Vous écoutez RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure dans le sillage d'une célébrité, ou plutôt aujourd'hui, dans la traîne pailletée et lumineuse d'une star entrée dans la légende, dont le seul prénom, Marilyn, ouvre la porte à tous les fantasmes, toutes les supputations, et bouscule toujours presque 60 ans après sa disparition, nos imaginations. Marilyn Monroe aura eu une vie brève et sans répit, une existence assassinée par les mensonges et les tourments, où les joies semblent condamnées à s'éteindre. C'est cette vie volée que je vais vous raconter aujourd'hui avec, en fin d'émission, notre invitée, la critique de cinéma Muriel Joudet. Marilyn Monroe, une princesse si fragile, dans Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL.
Confidentiel Marilyn Monroe sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Marilyn Monroe ne fut jamais la nouvelle Vénus. Elle chercha l'amour désespérément, mais celui-ci ne cessa de se dérober sous ses pas. Elle n'en reçut que des lambeaux, des promesses non tenues, des trahisons, sans pouvoir se résoudre à croire que ce sentiment n'existait pas. Norma Jean Mortenson, selon l'état civil, ou Norma Jean Baker, selon son extrait de baptême, est née au Los Angeles County Hospital le 1er juin 1926. Sa mère s'appelle Gladys Monroe, mais elle ne connaîtra jamais son vrai père. Le nom qu'elle porte, Mortenson, est celui d'Edward Mortenson, brièvement marié à sa mère et divorcé. Marilyn serait le fruit de la liaison de sa mère, employée dans un laboratoire de développement de films, avec son patron, un certain Charles Stanley Gifford. De ce père supposé, Marilyn Monroe ne disposera que d'une photo sépia que sa mère lui a montrée à l'âge de 8 ans. Celle d'un homme souriant portant un chapeau mou et une petite moustache à la Clark Gable. Un homme qui serait mort dans un accident de voiture. « Je n'ai jamais cru à cet accident », confiera Marilyn, qui retrouvera 10 ans plus tard Charles Stanley Gifford. Quand elle l'appellera au téléphone, celui-ci lui raccrochera au nez. L'enfance de Marilyn Monroe est le temps de tous les secrets. Une mère qui dissimule son passé, un père anonyme, une demi-sœur dont elle n'apprendra que des années plus tard l'existence. Deux semaines après sa naissance, faute de moyens, Norma Jean est confiée par sa mère à une famille d'accueil, le couple Bolander, Ida et Wayne. Elle va rester 7 ans chez eux, sans doute les plus heureuses années de sa vie. Elle grandit au milieu d'autres enfants dans une maison entourée de vergers, dans la petite ville d'Hawthorne, près de Los Angeles. Sa mère, qui vient la voir les week-ends, va apparaître toujours plus instable et fragile psychologiquement au fil des années. Il lui arrive de n'être plus elle-même. À 7 ans, elle vient toutefois reprendre sa petite fille, qui quitte à jamais la maison des Bolander. Toute sa vie, Marilyn sera à la recherche du paradis perdu d'Hawthorne, là où personne ne lui voulait du mal. La future Marilyn Monroe vit avec sa mère dans une modeste maison d'Hollywood. Gladys a déjà fait quelques séjours à un hôpital psychiatrique. Au bout d'un an, elle commence à perdre la raison, reste recluse dans sa chambre. Elle est jugée dangereuse, diagnostiquée schizophrène paranoïde et placée en maison de repos. Marilyn ne la verra plus désormais que par intermittence, silhouette fantomatique perdue dans un nuage médicamenteux. Pour l'instant, la petite fille est livrée à elle-même. L'année de ses 8 ans, elle est violée dans un foyer où elle est pensionnaire. Elle ne donnera jamais le vrai nom de son violeur, l'appelant Monsieur Kimmel et le présentant comme un Anglais qui avait l'âge d'être son père. Marilyn racontera bien plus tard qu'une porte s'était ce jour-là refermée sur elle. Dans un journal intime retrouvé peu après sa mort, l'actrice écrit cet appel à l'aide au sujet de son viol. « Non, je ne serai pas punie pour ça, non, je ne serai ni menacée ni privée d'amour ou jetée dans les flammes de l'enfer pour ça. » Marilyn Monroe est désormais une pupille de l'État de Californie. La voilà ballottée entre sa tutrice, Grace Goddard, une lointaine tante et deux orphelinats. C'est une élève médiocre qui a du mal à être ponctuelle et attentive. Il n'y a qu'en écriture, en lecture et en poésie qu'elle excelle. Pour cette fille qui étouffe en pension, chaque sortie au cinéma est une bouffée d'oxygène. À 14 ans, elle écrit « Je n'aimais pas le monde dans lequel je vivais, c'était sinistre. Mais j'adorais raconter des histoires. Quand on m'a dit que cela s'appelait jouer la comédie, j'ai répondu que c'est ça que je voulais faire, actrice. » Marilyn Monroe a 16 ans quand sa tutrice quitte la Californie. Avant de partir, celle-ci trouve un stratagème pour que l'adolescente ne passe pas 2 années supplémentaires à l'orphelinat. Conclure un mariage arrangé. Le mari n'est autre qu'un voisin de 21 ans, un certain James Doherty, sur lequel Marilyn n'a jamais posé le regard. Peu importe, elle accepte la combine. Le 19 juin 1942, elle devient Madame Doherty. Pas vraiment d'amour dans ce jeune couple. Côté mari, il rassure ses parents. Côté épouse, elle quitte l'orphelinat. « J'avais l'impression de sortir du zoo », dira-t-elle. 4 ans de mariage, un mari le plus souvent absent, marin à bord de cargo, puis pendant 2 ans, engagé dans la guerre au Pacifique. Marilyn vit au rythme des lettres et des permissions d'un époux qu'elle ne connaît pas. Elle s'ennuie, prend un job à la Radio Plane Company, une usine d'armement qui tourne à plein régime. Un photographe militaire qui fait des portraits d'ouvrières affectées à l'effort de guerre, clichés distribués aux GIs, la remarque au premier coup d'œil. Cette Norma Jean Doherty, beauté fraîche et brune, sourire enthousiaste, sort du lot. David Conover sera le premier homme à avoir capturé la silhouette et le sourire de celle qui va être Marilyn, la femme la plus photographiée au monde.
I'm through with love. I'll never fall again.
Même si elle ne s'appelle pas encore Marilyn Monroe, les premières photos attirent immédiatement l'attention. Elle pose vite en maillot de bain et même totalement nue pour un calendrier destiné aux soldats. Celui-ci restera 10 ans dans le tiroir d'un imprimeur. Le patron de Playboy, Hugh Hefner, le rachètera en 1953. $500 seulement pour lancer son magazine, alors que Marilyn triomphe dans Les hommes préfèrent les blondes. James Doherty voit d'un mauvais œil la carrière de mannequin de son épouse. Elle lui promet qu'elle arrêtera quand il rentrera, mais elle ne l'attend pas. Elle file à Las Vegas, où elle demande le divorce. Bill Purcell, un étudiant qui sera un jour homme d'affaires, et son premier amant, attentif et discret, Purcell, dira avoir été séduit par cette apparition en short blanc et chemise blanche, ses yeux bruns passant au bleu. Il restera l'ami éternel de Marilyn, le seul à qui elle téléphonera quand le cafard l'étouffera à Hollywood. À Las Vegas ou à Los Angeles, cette Norma Jean, qui ne fume pas et ne boit pas, se maquille très peu et dit oui sans réfléchir à tous les photographes, devient un modèle réputé. Hollywood la repère, elle est donc invitée à faire un essai dans les studios de la Century Fox, plutôt concluant, même s'il faut absolument qu'elle change de nom. Celui qu'elle porte n'est pas assez glamour. Elle s'appellera donc Marilyn Miller, ce qui ne lui convient pas. Comme elle est fan de la star Jean Harlow, elle propose donc à la place Jean Monroe, le nom de jeune fille de sa mère. Le studio tranche, ce sera Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, 20 ans, apparaît rapidement dans 2 comédies à petit budget. Mais la Fox hésite. Marilyn a beau être accro aux cours de théâtre du studio et rêver à des rôles dramatiques, elle ne convainc pas. Trop fragile, trop effarouchée, trop intimidée pour être une bonne actrice. La Fox ne renouvelle pas son contrat. La Columbia lui donne aussitôt une 2e chance, mais il va falloir qu'elle se fasse teindre en blonde. L'un des agents qui fait la pluie et le beau temps à Hollywood, Johnny Hyde, la prend sous son aile. Il a plus de 30 ans qu'elle, en fait sa maîtresse, s'entiche de la starlette, songe à divorcer pour l'épouser, mais succombe d'une crise cardiaque après 2 ans de liaison. Marilyn repère alors le protecteur qui lui ouvrait toutes les portes. Commence pour elle une course effrénée au casting, abonnée à des comédies dans lesquelles elle joue la fille sexy de service, toujours prête à poser en petite tenue. Ses photos, publiées dans la revue des troupes américaines, font sensation. Marilyn crée même le scandale quand un journal découvre que sa mère, qu'elle disait morte, est en fait bien vivante, pensionnaire d'un asile psychiatrique. Sexe et mensonge, cette Marilyn cacherait-elle le diable derrière son visage d'ange blond ? L'Amérique a un faible pour cette Marilyn Monroe qui n'a pas froid aux yeux, prend tous les risques. Sur les plateaux, elle passe pour une fille impossible qui n'en fait qu'à sa tête. Elle est souvent en retard, oublie son texte, se moque des obligations imposées par les studios, boit, fume et aime sortir. Marilyn est belle, fantasque, imprévisible. Les GI sont sa photo au-dessus de leur lit et son visage est peint sur les bombes embarquées dans les B-50. Elle se moque de tous ces hommes qui lui tournent autour et ne voit en elle qu'une proie désirable. Elle multiplie les aventures de quelques jours ou quelques semaines avec le réalisateur Elia Kazan, les acteurs Nicolas Ray ou Yul Brynner. Personne ne se doute que les hommes, au fond, la répugnent. Personne ne se doute non plus qu'en dépit des apparences, Marilyn tremble comme une feuille, sûre de rien, une perpétuelle anxieuse, une insomniaque qui prend des somnifères, enchaîne avec des amphétamines. Dans les 4 années qui viennent, elle sera addicte et ne pourra plus se passer de ces cocktails toxiques.
If you listen, you can hear it call. Whalery.
Whalery.
There is a river called the River of No Return.
Le 14 janvier 1954, Marilyn Monroe se remarie au City Hall de San Francisco à un homme pour le moment plus célèbre qu'elle, le champion de baseball fraîchement retraité Joe DiMaggio. DiMaggio n'est pas très beau, un peu gauche, boit beaucoup trop, n'aime ni les mondanités ni les paillettes et rêve de pouvoir garder auprès de lui son actrice pour en faire une épouse parfaite. Il s'aperçoit vite qu'aucune cage ne peut emprisonner cette Marilyn. Un mois seulement après la noce, il enrage lors de leur lune de miel en Corée. Il lui est insupportable de l'avoir chantée dans une robe à fourreau bleu devant 100 000 soldats surexcités sur la base de Daegu. DiMaggio essaie de lui dire quel rôle choisir, mais Marilyn refuse. Un mari jaloux qui ne peut qu'assister au bal des prétendants, à la danse du désir. Au mois de juin, lors d'une soirée dans la villa de l'impresario Charles Feldman, Marilyn croise pour la première fois le regard d'un jeune sénateur, John Fitzgerald Kennedy, 37 ans. Quelques mois plus tard, pas encore président, il l'invite dans une maison de Malibu, théâtre de leur nuit secrète dont chaque minute sera enregistrée par le FBI. Au mois d'août 1954, quand la robe blanche de Marilyn vole au-dessus d'une bouche de métro, dans 7 ans de réflexion, DiMaggio est ivre de colère. Elle prend peur, appelle en pleurs son avocat, accuse son mari de cruauté mentale et demande le divorce. Le mariage aura duré 9 mois. Joe DiMaggio, l'homme qui ne voulait pas partager Marilyn, restera le seul qui l'aura vraiment aimé et le seul qui continuera à lui tendre la main. Marilyn Monroe fait tourner les têtes, mais elle se lasse de son rôle de poupée parfaite. Elle pressent que cette image va finir par l'étouffer, même si un film, Niagara, lui a permis d'échapper à son rôle de ravissante idiote. Sans prévenir, elle claque la porte d'Hollywood et va s'installer à New York, avec la ferme volonté de devenir une actrice digne de ce nom, quitte pour cela à repartir à zéro. Elle prend des cours chez Lee Strasberg à l'Acteur Studio, étudiante qui, comme les autres, attend son tour dans un couloir. Strasberg veut des acteurs qui racontent leur propre vie. Celle de Marilyn est déchirée, exsangue, névrotique. Il l'encourage à se livrer alors à la psychanalyse, la nouvelle thérapie à la mode. L'actrice aura 5 psys au total. Le docteur Anna Freud, qui n'est autre que la fille de Sigmund Freud, la décrit comme émotionnellement instable, impulsive, cherchant sans cesse l'approbation des autres, des tendances paranoïaques et schizophrènes. Marilyn était déjà un trophée que se disputent les hommes. Elle devient un sujet d'étude pour les thérapeutes. Elle leur confie les détours de son âme, avec l'espoir qu'ils puissent la sauver. À New York, entre psy et intello, Marilyn Monroe a le sentiment d'être enfin reconnue. Elle, qui a toujours rêvé d'écrire, est heureuse de fréquenter les écrivains qui comptent, de Truman Capote à Carson McCullers. Elle couche avec l'un des plus célèbres, Arthur Miller, un homme marié qui a 10 ans de plus qu'elle. Les studios la mettent en garde contre cette liaison. Miller est soupçonné de communisme, il est sur la liste noire du FBI, mais elle s'en moque. Dans son journal, elle écrit « J'aime Arthur, c'est la seule personne en qui je peux faire confiance autant qu'en moi-même ». Marilyn, elle aussi, est fichée par le FBI. Miller divorce. Le 29 juin 1956, elle se marie une troisième fois. L'intello épouse le sablier, titre le journal Variety, référence à ses formes ondulantes. Sa réputation de sex-symbole lui colle encore à la peau, mais elle est bien décidée à s'en débarrasser. Arthur, à l'année sûre, va l'aider. Ne lui a-t-il pas dit qu'il croyait en elle? Elle va tout faire alors pour lui donner un enfant et devenir mère. Mais elle fait 2 fausses couches, une grossesse extra-utérine. Elle a recours à la chirurgie pour parvenir à être enfin enceinte. En vain, les drogues auraient abîmé son corps. En 1959, à 33 ans, le médecin lui dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle lui répond « Je le savais déjà ». Arthur Miller devait être pour Marilyn l'homme de la rédemption. Il est celui qui va l'accompagner sur une pente vertigineuse. À Londres, sur le tournage du Prince et la danseuse, l'actrice tombe sur le carnet de son mari. L'homme qui a conquis la femme la plus désirée au monde écrit qu'il est déçu par son mariage, confesse avoir parfois honte de son épouse quand il la présente à des amis. Marilyn est dévastée, se sent trahie et humiliée. À partir de demain, je vais prendre soin de moi-même. C'est tout ce que je possède, c'est tout ce que je n'ai jamais eu, écrit-elle. Le couple fait comme si de rien n'était, navigue entre ses résidences de New York et Long Island. Mais ça n'est qu'une illusion d'optique. Imperceptiblement, leurs chemins divergent. Marilyn fait une overdose de barbiturique, passe quelques jours à l'hôpital, puis retourne à Hollywood. Miller a insisté pour qu'elle accepte de tourner une nouvelle comédie où, elle le sait, ce sont ses formes et pas son cerveau qui intéresse Billy Wilder, le réalisateur. Un intéressement de 10% sur les recettes de certains Lem Show finit de la convaincre d'accepter. Marilyn Monroe est seule. Son mari ne souhaite plus s'afficher à côté d'elle, la fuit et la délaisse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il la rejoint tout de même sur le tournage du Milliardaire à Los Angeles. Les acteurs logent dans des bungalows. Celui d'à côté est occupé par les Français, Simone Signoret et son mari Yves Montand. Marilyn veut-elle rendre Miller jaloux pour le reconquérir ? Le fait est qu'elle s'affiche avec Montand, en fait son amant, parade avec lui à la première du film comme si elle présentait un futur époux. Elle ne parviendra qu'avec ses Simone Signoret qui déclare « Si on dit que Marilyn s'intéresse à mon mari, c'est qu'elle a bon goût ». Arthur Miller, lui, se montrera totalement indifférent dans les bras d'une maîtresse, Inge Morath, qui deviendra sa femme. Le couple est alors à bout de souffle. Marilyn écrit « Tout est fini, mais nous devons rester ensemble car ce serait mauvais pour le film si nous nous séparions maintenant ». Le film s'appelle « The Misfits, les désaxés », scénario d'Arthur Miller, dernier saut dans l'abîme pour une star minée par les drogues et l'absence de sommeil. Elle est malade, le tournage s'arrête une semaine pour une cure de sevrage dans un hôpital. Son partenaire Clark Gable va mourir après le tournage. On accusera Marilyn de l'avoir épuisée avec ses retards, ses caprices et ses addictions. Elle éclatera en sanglots. « Pourquoi faut-il que les jolies femmes ne soient jamais à l'heure ?» lui avait simplement demandé un jour Clark Gable, l'homme qu'elle regardait comme si elle avait regardé son père.
« My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. »
Après les désaccès, Marilyn Monroe est engagée sur un chemin sans retour. Elle n'est plus elle-même. Elle s'accroche à son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, qu'elle surnomme Jésus. Elle dit faire des cauchemars de prisonnière. Elle rêve qu'elle casse une vitre avec une chaise, puis se retrouve à nouveau prisonnière. On l'enferme pour de bon. Elle proteste. Elle finit par confier un mot à une infirmière, à remettre à son deuxième mari, Joe DiMaggio. C'est un appel à l'aide. Il accourt. Il jure qu'il démontera la clinique psychiatrique Payne Whitney à Manhattan, pierre par pierre, si on ne fait pas sortir Marilyn. Le 10 février 1961, elle est libre. Elle rejoint DiMaggio en Floride, où il entraîne l'équipe des Yankees. On les photographie sur une plage. On annonce un remariage. DiMaggio en rêvait peut-être, mais il n'en sera rien. Après la mort de l'actrice, il fera déposer sur sa tombe une demi-douzaine de roses rouges, trois fois par semaine, jusqu'à son propre décès. Now this could only happen to a guy. En cette année 1961, Marilyn Monroe a acheté une petite maison cernée de palmiers au 12 305 Fifth Helena Drive à Brentwood, la banlieue chic de Los Angeles. Elle n'a jamais cessé de voir John Kennedy, liaison ponctuée de soirées glauques où l'actrice, entre médicaments et alcool, se retrouve trimballée à des adresses qu'elle ne connaît pas pour de furtives retrouvailles. Au début de l'année, le plus célèbre de ses amants est devenu président des États-Unis. Rêve-t-elle alors à un futur de première dame ? Kennedy lui a-t-elle fait miroiter un nouveau destin ? Elle parie y croire, persuadée que cet amour, enfin, sera le bon. Le 19 mai, elle apparaît sur la scène du Madison Square Garden, invitée à chanter pour l'anniversaire du président. On pourrait la croire nue dans sa robe. L'épouse de JFK, Jackie Kennedy, prévenue de cette exhibition, a préféré rester dans la propriété familiale de Glen Ora. Jamais déclaration d'amour n'aura été aussi évocatrice, désemparée et dangereuse. En regardant ces images, Jackie dira « La vie est trop courte pour se soucier de Marilyn. Le président ne rappellera jamais la star. » Un peu plus de deux mois après la soirée d'anniversaire, le 5 août 1962, Marilyn Monroe, 36 ans, est retrouvée morte à 3h50 du matin par son médecin, le docteur Engelberg. Nue, sur le ventre, dans son lit, une main sur le téléphone, la table de nuit encombrée de flacons de barbiturique. Un suicide, possible. Un meurtre, dira aussi une rumeur persistante. On ne retrouvera aucune lettre d'adieu. Depuis quelques semaines, Marilyn vivait ici en recluse, les volets tirés, enfermée dans une chambre quasiment vide. Deux mois auparavant, la Fox l'avait débarquée du tournage de Something Got to Give pour absence injustifiée. Le film resterait inachevé. Le 8 août 1962, Marilyn Monroe est enterrée au Westwood Village Memorial Park de Los Angeles. Joe DiMaggio, veuf inconsolable d'une légende, a interdit aux Kennedy et au tout Hollywood d'être présents. Arthur Miller ne s'est pas déplacé. Marilyn disparaît dans un couloir sombre de la crypte numéro 24, appelé le couloir des souvenirs, morte d'une overdose peut-être, de chagrin sûrement, celui de n'avoir jamais été aimée.
Confidentiel Marilyn Monroe sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Muriel Joudet.
Bonjour.
Critique cinéma au Monde et aux Un Rock, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Marilyn, sur laquelle vous préparez un livre, Marilyn Monroe, la totale, avec Jean-Marc Lalanne, livre qui sortira bientôt aux éditions EPA. Muriel Joudet, question sans doute difficile, mais Marilyn Monroe est-elle un fantasme ou une véritable actrice ?
Il faut partir du principe que, de toute façon, c'est un nom inventé, c'est un pseudonyme. Mmh. Donc, pour moi, c'est une fiction totale. Et même, il faut se fier à ce que pensait Marilyn Monroe de Marilyn Monroe. C'est qu'au bout d'un moment, très vite, elle parle d'elle à la troisième personne, comme Alain Delon. Et il y a cette très belle anecdote de Truman Capote qui dit qu'un jour, il voit Marilyn Monroe se regarder dans le miroir et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle dit « Je la regarde ». Et donc, je pense que même pour l'actrice, c'était une fiction. Donc, je dirais que c'est un fantasme pur et que cette femme n'existe pas.
Alors ça, c'est tout à fait fascinant, parce qu'il y a évidemment chez Marilyn, c'est très frappant, cette capacité de transformation au fil des photos et des films. Et chaque fois, ce sont des visages différents. On a l'impression qu'elle joue avec son image en permanence.
Oui, elle joue. Et puis, je pense que Hollywood est, pour beaucoup d'actrices, un outil de réinvention de soi, une manière d'échapper à son destin, d'échapper à son physique. Marilyn Monroe a changé physiquement. Elle a fait de la chirurgie esthétique, on lui a un peu imposé. Elle a changé de nom. Et donc, elle se réinvente et par les films. Mais je pense que, moi, c'est un peu ma grande théorie sur Marilyn Monroe, c'est que le cinéma l'a complètement sous-investie, l'a sous-estimée. Et que sa vraie carrière se passe chez les photographes. Et là, on sent qu'elle prend un véritable plaisir
à poser. Elle exprime sa véritable personnalité, c'est ça que vous
voulez
dire ?
Oui, elle exprime du moins celle qu'elle voudrait être. Là où au cinéma, elle a été très frustrée des rôles qu'on lui a confiés, je pense que vraiment, quand on regarde les photographies, on sent un épanouissement, on sent qu'elle arrive à échapper à son destin, à tous les tuteurs qui ont voulu contrôler sa vie et qu'elle est vraiment elle-même.
Mais pourquoi, alors, est-ce qu'elle accepte ces rôles légers, il faut le dire, des comédies plutôt déshabillées, etc.
Alors, elle aime la nudité, mais pour elle, la nudité, c'est quelque chose d'innocent. Il n'y a pas du tout cette dimension de culpabilité autour de la sexualité. C'est d'ailleurs ce qu'on va lui reprocher. Et elle les accepte parce qu'elle estime que finalement, plus elle fera de petits rôles, c'est toujours comme ça à Hollywood, on accepte des petits rôles, et puis au bout d'un moment, il y a un grand rôle. Mais sinon, elle était complètement cadenassée par la Fox, avec qui elle était sous contrat. Et elle était bien obligée d'accepter ces rôles, qui étaient très souvent... les films étaient souvent réalisés par des grands auteurs. Mais elle était dans l'attente de ce grand rôle. Alors, elle a fait des grands films, des films où elle a vraiment des personnages à la hauteur de ce qu'elle peut donner. Mais j'imagine qu'elle se disait que le grand rôle finirait bien par arriver. Mais je pense qu'il y a quand même un sentiment de frustration quand on voit sa filmographie, même s'il y a quand même des rôles éblouissants. On sent qu'elle a envie de donner plus.
Elle va réclamer elle-même en permanence d'avoir ces rôles un petit peu plus dramatiques et un peu plus profonds. Alors, j'ai raconté dans ce confidentiel l'un des fils rouges de sa vie, on peut pas l'éviter, c'est l'amour. L'amour, c'est le grand absent de la vie de Marilyn.
Oui, bien sûr. Après, là, il faut peut-être devenir un peu psychanalytique, parce que elle a eu une enfance très compliquée. Elle n'a pas connu son père, elle n'a pas été éduquée par sa mère, elle est passée de famille d'accueil en orphelinat, et ça l'a vraiment marquée. C'est un manque affectif donc qui marque son enfance et qui va évidemment se perpétuer tout au long de sa vie, parce qu'elle ne va jamais être satisfaite par ses trois mariages. Et c'est vrai que très souvent, je pense que ses maris, comme les gens qui ont voulu s'occuper d'elle, comme ses thérapeutes, ont profité de ce manque affectif.
Ils sont intéressés, finalement.
Oui, très souvent, quand on lit des trucs sur Marilyn, on voit que tout le monde parle de ce regard de fille perdue, d'orpheline. Ouais. Et alors, les gens veulent l'aider à se construire, à devenir meilleure actrice, mais ils finissent par profiter d'elle. Et c'est vrai qu'elle a toujours souffert de ça, c'est qu'elle a fait confiance à beaucoup de gens qui, très souvent, n'ont pas été des outils émancipateurs et ont plutôt eu tendance à l'écraser.
Ouais. Notamment Arthur Miller, faut le dire.
Moi, j'ai pas une très bonne impression d'Arthur Miller qui y a vu une sorte de muse. Elle y voyait le grand écrivain de gauche qui allait lui écrire des grands rôles. Et en fait, il a profité de son argent. Il lui a écrit le rôle pour elle de The Misfits, qui est très inspiré de sa propre vie, alors qu'elle était à un moment de sa vie où elle voulait échapper à tout ce qu'elle a été à l'époque, c'est-à-dire cette femme blessée, en manque affectif, complètement qui erre dans sa propre vie. Et c'est exactement le rôle qu'il lui donne dans The Misfits, et elle n'a pas supporté ça.
Elle replonge à ce moment-là. Hein, elle est sous emprise presque, hein, elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Et puis après, évidemment, dans ce jeu secret et pervers, il va y avoir JFK, qui est déjà là d'ailleurs à cette époque, mais qui est aussi un des fils rouges de la vie de Marilyn. Est-ce qu'elle a mis les pieds avec cette famille Kennedy, et Marilyn, dans un monde où elle ne devait pas mettre les pieds, justement ?
Alors, c'est très compliqué. Moi, je m'en tiens à la biographie de Donald Spoto, qui est un grand biographe américain.
Le meilleur.
Et qui met ça un peu à plat et qui dit, il y a autour de les JFK et Marilyn, c'est très simple. Elle a couché quelques fois avec JFK et ça n'a pas été une grande histoire d'amour, ça n'a pas été son amant. Et Robert Kennedy, en fait, il s'est rien passé. Et donc, il met un peu fin à tout ce fantasme qui entoure Marilyn et les Kennedy. Et bien sûr, si on lit d'autres livres, on peut partir dans des délires. Mais moi, j'avoue m'en tenir à... Alors, c'est moins romantique, c'est moins fantasmatique, mais je crois qu'il ne s'est rien passé et qu'ils ne sont pas du tout à l'origine de sa mort. Donc,
les théories du complot ont abondé sur la mort de Marilyn. Et elles continuent encore aujourd'hui.
D'ailleurs,
c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est que des années après, on se demande toujours de quoi est mort Marilyn. Bien, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a tué Marilyn ? Est-ce que ce sont ce cocktail de barbiturique ou bien tout simplement son immense solitude ?
C'est, alors, je pense que c'est son immense solitude. Moi, je pense que ce qui l'a tué, là encore, je me réfère à Donald Spoto, c'est son dernier psychanalyste, Ralph Grinson, qui a vraiment exercé, qui a vu cette...
Qu'elle appelait Jésus, d'ailleurs.
Oui, voilà. Qui, donc, il n'y a pas plus beau cadeau pour un psychanalyste de voir cette grande célébrité en plein manque affectif. Et elle en était quand même à faire parfois 2 séances par jour, 6 fois par semaine. Il faut imaginer donc l'emprise qu'il exerçait sur elle. Lui était très respecté, mais en fait, dans les détails, et c'est ce que raconte Spoto, c'était un charlatan absolu. Il était complètement obsédé par les célébrités, et donc il avait sous son aile Marilyn Monroe, et je pense qu'elle est morte d'un cocktail de barbiturique. En fait, il y a 2 médecins qui ont prescrit des médicaments qui, mis ensemble, provoquent un cocktail mortel, et sur ce coup-là, ce soir-là, ils ne se sont pas concertés, et elle serait morte de ça, mais évidemment, Ralph Grinson a profité de sa réputation pour échapper à la police et à la prison. Mais je pense que donc on pourrait dire qu'elle est, née de sa grand, elle est morte plutôt de sa profonde naïveté, de sa profonde la confiance qu'elle mettait en des gens qui ne méritaient pas sa confiance. Mais moi je pense que c'est ce psychanalyste qui l'a tué. Ça me semble. Alors ça met fin à beaucoup de belles théories, de beaux complots comme quoi Marilyn aurait été tuée parce qu'elle savait des choses sur les ovnis. Oui. Il y a des théories très.
Oui, voilà. On entend tout. Voilà. Et sur les Kennedy, évidemment, le carnet secret qui aurait disparu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui
voilà,
ont été
voilà, et je pense que toutes
écrites.
Ces théories viennent du fait qu'il y a eu un flou autour de sa mort qui n'a jamais vraiment été rétabli. Et donc, ça, comme souvent, hein, quand il n'y a pas de vérité très, très claire, les gens peuvent se permettre de délirer. C'est ce qui est beau aussi dans le dessin de Marilyn.
Alors, sans cette mort, Muriel Joudet, évidemment, cette mort très jeune, sans doute le mythe aujourd'hui ne serait pas le même de Marilyn. Est-ce que sa carrière aurait pu avoir une suite à Hollywood ou au théâtre? Ou est-ce qu'elle était finalement en fin de cycle, comme on pourrait dire?
Non, elle était, au moment de sa mort, elle était dans une période de renaissance. Elle s'apprêtait à se remarier avec Joe DiMaggio. Elle avait plein de projets, notamment un projet qui lui tenait à cœur, un biopic sur Jean Harlow, une grande actrice des années 30.
Qu'elle admirait d'ailleurs.
Oui, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Jean Harlow est aussi morte à 36 ans. Enfin, c'est vraiment des jumelles. Et donc, elle n'était pas du tout en fin de cycle. Justement, c'était un nouveau cycle où elle allait faire enfin les films qu'elle voulait faire. Peut-être qu'elle allait faire du théâtre. La question est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme beau rôle pour des actrices qui vont vers leur quarantaine à cette époque, à Hollywood. Donc peut-être qu'elle aurait été un peu maltraitée, mais moi je me dis peut-être qu'elle aurait pu rencontrer Cazavettes ou des cinéastes comme ça indépendants. Ouais. Il aurait pu se passer des choses très belles pour elle, et je pense pas du tout qu'elle soit morte, que c'était le chant du cygne. À 36 ans, elle était vraiment d'une période de réinvention d'elle-même.
Elle avait envie de vivre, elle ne s'est pas suicidée.
Oui, moi je pense vraiment que c'est quelqu'un, c'est ça qui est très touchant chez elle, qui avait envie de vivre, qui avait envie d'être meilleure, qui avait envie d'être belle et qui avait envie d'apprendre aussi, de se cultiver, de découvrir des belles personnes. Et c'est très touchant. Et il faut sortir un peu du côté glauque qui entoure Marilyn. C'est quelqu'un qui est nourri par une grande pulsion de vie.
Merci beaucoup Muriel Joudet pour ses confidences sur Marilyn, une icône donc intemporelle et éternelle. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Philippe Duval à la réalisation. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre femme qui elle aussi s'était réfugiée dans les addictions, la princesse triste Margaret, la sœur de la reine d'Angleterre.
Vous écoutez RTL.